autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour parler non pas d'amour, comme prévu, la grève des transports ayant bloqué nos invités dans leur élan. Nous vous proposons de nous réinterroger sur nos premières fois avec le préhistorien Nicolas Tessandier qui s'était intéressé à toutes les premières fois de l'humanité. Le premier outil, le premier feu, le premier dieu, le premier mot, le premier crime. Il y a bien eu un début à tout, mais comment le déterminer ? Et qu'est-ce que toutes ces premières fois nous révèlent sur la construction de notre humanité ? C'est un vertigineux voyage à remonter le temps à travers une véritable enquête policière sur les traces de nos ancêtres que nous avait entraîné le préhistorien Nicolas Tessandier en avril dernier. Nous vous proposons de réécouter cet entretien à la source autour de la question comment remonter aux premières fois de l'humanité. Bienvenue. Bonjour Nicolas Tessandier.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager nos premières fois. C'est le titre de votre essai qui vient de paraître aux éditions La Ville Brûle. Un formidable inventaire à la Prévert, la première trace, le premier meurtre, le premier couple, le premier dieu, la première drogue, qui donne au fond un peu le vertige, car bien mieux qu'un quiz préhistorique, vous nous renvoyez au fond, Nicolas Tessandier, à nos propres interrogations existentielles, individuelles et collectives. La première fois que, question que se pose évidemment les préhistoriens. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS, Nicolas, spécialiste des équipements en pierre taillée et de l'émergence d'Homo sapiens. C'est précisément pour partager finalement les enquêtes quasi policières que vous menez, que vous avez choisi de nous entraîner, de nous faire remonter le temps sur les traces de toutes nos premières fois.
Oui, je voulais mêler à la fois les questionnements qui nous touchent, nous préhistoriens, un peu tout ce qu'on peut essayer de dire, de raconter sur nos ancêtres, d'essayer de montrer qu'on pouvait aussi poser des questions contemporaines sur les hommes préhistoriques, qu'on pouvait parler de violence, d'inégalité sociale ou des différents thèmes que vous avez évoqués à l'instant, et en même temps d'y mêler aussi effectivement nos modes, nos méthodes d'enquête et de montrer un peu à la façon d'un polar, dans chaque petite histoire, comment on pouvait réussir à raconter des choses sur des
thématiques. Oui, parce que c'est compliqué, finalement les questions sont presque plus importantes que les réponses, il y a des premières fois, mais elle change finalement ces premières fois et elles nous font remonter le temps de plus en plus au fur et à mesure des découvertes.
Oui, et puis souvent elles restent sans réponse, puis nos premières fois sont jamais nos premières.
Nos vraies premières,
voilà, nos
oui,
vraies
c'est
premières.
Ça.
Souvent on ne touche du doigt que des choses qui sont déjà bien installées, bien en place dans ces sociétés.
Oui, à partir du moment où vous en trouvez trace, voilà. C'est que c'est bien en place.
On peut penser qu'à partir du moment où on les trouve, on les retrouve et on les découvre.
Et comment vous avez choisi ces premières fois ? Parce que c'est vrai que c'est un peu un catalogue à la Prévert, mais c'est assez subjectif finalement. Bon, la première trace, d'accord, le premier meurtre, on y viendra, la première aiguille à chat pour coudre. Oui, c'est subjectif, oui. Ça.
J'avais commencé à faire une liste, en fait. Mmh. Au départ, c'était pour un autre ouvrage, où, effectivement, en préhistoire, on nous demande de faire des frises chronologiques, de mettre des faits marquants pour que les gens puissent s'y repérer, pour que le public puisse s'y repérer. Et c'est en faisant cette liste pour un autre ouvrage qu'au bout d'un moment, après en avoir mis une trentaine ou une quarantaine d'entrées, je me suis dit, tiens, ça ferait une bonne thématique de bouquin. Et après, c'était un peu à l'envie. Il y avait des passages obligatoires, je pense, l'outil, le feu, la chasse, et puis d'autres plus qui m'étaient plus personnels ou sur lesquels il m'était agréable d'écrire.
Mais c'est toutes ces premières fois, c'est vrai qu'elles éclairent aussi, on va le voir au cours de cette émission, notre présent. Parce que finalement, c'est nous aujourd'hui qui nous posons ces questions-là. Et oui, c'est des questions collectives, individuelles, qu'on se pose tous. C'est les grandes questions sur nos origines.
Voilà, c'est les grandes questions sur nos origines. Je pense qu'effectivement, l'individuel et le collectif, ça m'a semblé des notions intéressantes dont j'ai essayé de parler un peu en introduction. C'est-à-dire qu'on a tous des premières fois, et en même temps, il y a les premières fois qui sont collectives.
Qui sont
la grande chose n'appartient à personne. Ce sont des mémoires collectives, des patrimoines de l'humanité au sens contemporain même du terme.
Je propose de commencer par la première leçon de notre humanité, voire pré-humanité, sur les traces donc des tout premiers outils, qui nous fait remonter à leur 132 000 générations en arrière, rien que ça, jusqu'à Lomekwi au Kenya, où les équipes franco-kenyanes de l'archéologue Sonia Armand ont découvert les plus vieux outils de pierre à ce jour, datant de 3,3 millions d'années. Écoutez Sonia Armand qui partageait ici même cette bouleversante découverte.
Une des choses extraordinaires que nous avons découvert avec ces outils, c'est que nous avons approché pour la première fois nos ancêtres, non plus uniquement sur le plan de leur squelette ou de leur anatomie, mais nous les avons approchés sur le plan de leur intelligence, entre guillemets, et de leur faculté cognitive en général.
Qu'est-ce que ça change, cette découverte ? On a l'impression, on l'a dit, hein, que ça change tout. Ça change tout déjà géographiquement, puisqu'au fond, les plus anciens outils qui avaient été découverts, c'était du côté de l'Éthiopie.
Oui, alors on pourrait très bien s'imaginer dans quelques temps que des outils plus anciens que 3 millions d'années soient retrouvés en Éthiopie.
Ça pourrait
tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu changé le lieu géographique, pas de très loin hein, finalement. On est toujours en Afrique de l'Est, on est
berceau
toujours
de l'humanité.
Voilà, on arrive toujours berceau de l'humanité. Moi je dirais que plus que le berceau de l'humanité, le Kenya maintenant est vraiment le berceau de l'innovation.
Le Kenya, berceau de l'innovation, Nicolas Tessandier, ça c'est une vraie première fois, hein, découvert par Sonia Hamant, ces outils de préhumains, avant finalement l'émergence du genre homo.
Ouais, je crois que c'était ça le point le plus important avec l'Omekwi. Hein, pour l'instant, il y a un décalage effectivement entre les premiers représentants du genre homo qu'on situe vers 2,8 millions d'années, auxquels on pensait associer les premiers outils, dans le sens où dans l'esprit des préhistoriens, il y avait souvent une adéquation très nette entre...
Oui, l'homme, c'est celui qui fait l'outil et qui s'en sert.
Voilà, l'homme fabricateur, et on s'aperçoit pour l'instant, en tout cas, qu'il n'y a pas d'individu du genre homo qui soit contemporain et aussi ancien que ses premiers outils. Quoi. Ce qui fait que le fait de s'outiller ne serait pas le propre essentiel de l'homme, et que d'autres, peut-être des australopithèques, des représentants du genre de Lucie, ont été ses premiers artisans. Donc c'est... Ça montre que les choses
relativise
pas...
les premières fois, quand on sait aussi qu'il y a des grands singes qui, eux aussi, savent fabriquer des outils. Tout est relatif. C'est aussi, alors, ce lieu-là, le berceau de l'humanité, même si le mot ne plaît pas à tout le monde, c'est aussi ce lieu-là, le lieu de la première leçon, de la première transmission, hein, pour revenir à vos premières fois, Nicolas Tessandier.
Mais l'outillage pose tout de suite ces questions-là, parce qu'effectivement... Comme le disait dans votre extrait Sonia Armand, on parle d'intelligence quand on parle d'outillage, on parle de savoir-faire, de connaissances à mettre en œuvre. Et on voit bien qu'au fur et à mesure que l'évolution des techniques avance dans le temps, peu à peu, on est sur des technologies qui s'apprennent, qui se transmettent, et qui, au bout d'un moment, posent même la question de savoir par quel type de transmission il a fallu avoir pour que les techniques... soit effectif d'une génération à l'autre, à partir du moment, notamment avec les premiers bifaces, donc là on est à 1,7 million d'années en Afrique, ça pose la question de savoir est-ce qu'une simple transmission visuelle, est-ce que le simple fait d'observer son voisin qui était en train de tailler suffisait à comprendre les concepts et les savoir-faire à mettre en œuvre.
Ce qui veut dire que le premier mot vient tout de suite ou en même temps que la première leçon. Transmission complexe, hein, d'outillage, ça passe par un langage.
Sans doute par des types de communication verbale. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, effectivement, là, c'est non pas les squelettes qui viennent forcément nous renseigner là-dessus, mais bien les traces matérielles archéologique de l'intelligence humaine qui se marque par la fabrication et la constitution d'outils.
Vous êtes vous-même spécialiste de la culture lithique, hein, de la taille des pierres par... alors vous aimez bien le dire à chaque fois par monsieur ou par madame, hein, d'ailleurs, hein, on ne sait pas si
oui, là.
Là, on ne sait pas du tout si c'était genré ou pas, voilà, ça nous échappe. Mais c'est vrai que c'est à travers ces outils-là qu'on peut remonter à l'intelligence, peut-être au langage, enfin c'est en étudiant ces traces matérielles qui restent, elles, que l'on peut imaginer, reconstruire, hein, on parlait d'enquête policière, l'humain ou le préhumain qui était derrière.
Oui, c'est pour ça que certains proposent, il y a des collègues proposent effectivement qu'à partir d'un moment, le langage serait nécessaire à la transmission des informations techniques et à la transmission des technologies, au moins à partir donc, de ces fameux bifaces dont on parlait. Avant, c'était peut-être différent, une simple observation de ce que faisaient les autres dans le groupe et entraînement devait peut-être suffire. Mais en tout cas, dès les premiers outils, bon, alors pas ceux de l'Omekwi que je connais moins bien, mais les premiers galets taillés, par exemple, autour de 2,5 millions d'années, 2,6 millions d'années, on n'a pas de gestes, les gestes sont souvent propres, pas ratés, etc. Donc peut-être pas de langage, mais en tout cas, des répétitions suffisamment fréquentes des actions techniques à
pour
produire.
Pouvoir faire des outils aussi sophistiqués.
Pour faire des outils efficaces.
Alors dans nos premières fois... On a dit que le passé pouvait éclairer aussi notre présent. Vous vous êtes interrogé aussi sur la première migration. Les hommes ont toujours migré, mais la première migration, ça semble un graal impossible à déterminer.
Bon, migration, je voulais le traiter aussi pour montrer qu'une thématique très contemporaine était interrogée par des préhistoriens et des gens qui travaillent sur un passé lointain. Première migration, à partir du moment... Quand on parle de première migration, on parle en général des premiers phénomènes de sortie d'Afrique. Hein. Tous les premiers représentants du genre humain sont issus, comme vous le disiez dans l'émission précédemment, du fameux berceau. Et on serait au moins avant 2 millions d'années pour ces phénomènes de sortie d'Afrique avec Homo erectus, l'espèce Homo erectus, et donc avec les sites les plus anciens en dehors d'Afrique qui sont aujourd'hui notamment en Chine.
Et du coup, c'est vrai que ce sont des enquêtes policières, parce que là, en l'occurrence, sur les premières migrations, il s'agit de remonter le temps. Au début, on parlait de sortie d'Afrique, maintenant, mais évidemment, un pluriel, il y en a eu beaucoup au cours des siècles, et puis il y a eu au cours des millénaires, et puis il y a eu des rencontres. C'est un vrai travail d'enquête policière à partir de traces pour remonter quoi ? À la première fois, mais c'est pas toujours la première fois.
Non, je pense qu'effectivement, là, on n'attrape pas du... D'ailleurs, en dehors de l'Afrique, on trouve des premières traces aujourd'hui, les plus anciennes en Chine. Et entre les deux, on n'a pas forcément les jalons qui nous permettent de reconstituer exactement quel a été le parcours de ces groupes qui devaient bouger sans s'en rendre compte eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne se lançaient pas... Enfin, j'imagine pas à plus de 2 millions d'années des groupes en se lançant en migration comme en conquête. Je veux dire, chaque groupe devait bouger d'un certain nombre kilomètres par génération... ou changer légèrement d'environnement parce que pour X raisons qui pouvaient être environnementales, culturelles, d'aventure.
Vous parlez d'ailleurs aussi de la première Amérique, et c'est pas Christophe Colomb, hein, la première Amérique. Hein. C'est bien avant.
Hein. Elle a quelques dizaines de milliers d'années.
Ouais. C'est ça, il faut juste le rappeler. Autour de la question pourquoi et comment remonter à nos premières fois, aux premières fois de l'humanité, on continue de s'interroger avec Trio et les Ogres de Barbac sur RFI, la première fois.
La première fois, des fois juste en claquant des doigts, la première fois qui se déclenche malgré soi, la première fois, toujours en évitant la file, la première fois qu'on voit ce que c'est qu'une fille.
La première fois, en escarpin ou en guenille, la première fois, celle qui apaise et qui vrille, la première fois, ça laisse un goût indélébile, une première fois,
un peu comme sur le toit du monde.
Et malgré soi, s'attacher à quelques secondes, la première fois. Et pourquoi pas une deuxième, la première fois que l'arbre découvre la sève et ça se voit.
L'enfant a découvert la fève.
C'est moi le roi.
Livré aux caprices des reines.
La première fois, qu'elle fut courte, qu'elle fut brève. La première fois, blottie de silence.
Un cri.
La première fois.
Et puis bien d'autres se sont suivis.
La première fois, goutte de sueur sur le nez entre tes doigts, une capote à retirer, la première fois,
une déception particulière,
la première fois, que l'on veut découvrir l'envers,
une première fois, qu'on fait en regardant le ciel, la première fois, le corps tout recouvert de miel.
Est-ce que ça va ?
Acceptera-t-elle l'attrait,
la première fois,
que l'on peut sentir ce qu'on s'aime
et derrière soi, le corps blotti contre toi, la première fois.
Un vrai cauchemar, m'en parle pas de cette première fois.
Une fille facile,
un vrai salaud.
La première fois, quand ça arrive un peu trop tôt et malgré soi.
Je ne m'en suis jamais souvenu, cette première fois.
Chez ses parents,
dans la rue.
La première fois, un coup d'éclat, une panique. La première fois, je me souviens de la musique.
La première fois de Trio et des Ogres de Barbac sur RFI. Autour de la question de nos premières fois, titre de l'essai de notre invité, le préhistorien Nicolas Tessandier. Nous remontons maintenant sur les traces du premier feu auquel s'est réchauffée l'humanité, le premier feu domestique, quand ou comment. La question n'est pas tranchée par les paléontologues, comme le professeur Jean-Jacques Hublin de l'Institut Max Planck de Leipzig, qui s'interroge et vous interroge, Nicolas Tessandier.
La domestication du feu, c'est quelque chose qui est très important pour les hommes.
Et depuis longtemps, on se pose la question de eh bien, quand le premier feu domestique. Ce qui a été proposé par plusieurs chercheurs récemment, c'est l'idée qu'en fait, avant cette domestication, il y a une longue période d'habituation, dans le fond, de l'homme et du feu. C'est-à-dire que le feu, ce n'est pas quelque chose qui a été domestiqué, inventé rapidement, mais entre le premier contact avec un feu plus ou moins entretenu, et puis la capacité à produire le feu et à l'utiliser de façon systématique, eh bien, il s'est écoulé une grande période.
Qu'en pensez-vous, Nicolas Tessandier ? Le feu n'a pas été domestiqué en une fois, il n'y a pas une première fois, Eureka, on sait faire du feu.
Je pense qu'en plus, comme beaucoup de phénomènes, il y a beaucoup de réinventions. C'est-à-dire qu'il faut imaginer quand même qu'en préhistoire, sur des périodes très reculées, on est sur des petits groupes, des groupes de petite taille, avec des goulots d'étranglement à des moments, des extinctions de population. Donc effectivement, le feu, comme tout phénomène technique, a dû être réinventé de multiples fois, j'imagine bien, par des groupes à différents endroits de la planète. Après, oui. Pour situer un peu aux gens... On a des éléments brûlés sur des sites archéologiques très anciens en Afrique, à plus d'un million d'années, mais qui sont vraisemblablement la résultante de feux accidentels. Donc, ce qui est la question qui est.
Oui, de feux accidentels ou de feux qu'on a réussi à préserver.
Et ça brûle les vestiges au sol, et on peut retrouver, nous, aujourd'hui, des vestiges qui portent des traces du feu.
Ce qui ne veut pas dire que les hommes aient domestiqué le feu.
Qui ne nécessite pas forcément une domestication. Par contre, quand on commence à avoir des foyers, des endroits bien circonscrits dans l'espace, avec des restes carbonisés, bon, là, on va se. Effectivement penché pour l'hypothèse que le feu a été intentionnellement allumé par les humains à tel endroit, dans un endroit circonscrit du site, etc. Pour donner des repères, sur les premières traces, on est à 800 000 ans sur un site en Israël, et en Europe, on est autour de 500 000 ans.
Ça serait la première fois que les hommes ont domestiqué le feu, voilà, qu'ils n'ont pas juste, sont pas juste voilà, servi.
Voilà, réaliser un feu intentionnel, même si ça ne veut pas dire qu'il ait été récupéré.
On ne sait pas si c'était la première fois où ils ont réussi à faire le feu. En tout cas, ils l'ont gardé et ils ont pu préserver, quelque chose.
Ouais. Même si en Europe, à partir de 400 000 ans, et puis peu à peu, une fois que les Néandertaliens entrent en scène, vers 300-250 000 ans, il y a tellement de feux sur les sites. Les traces de feu sont tellement présentes que là, on pense réellement qu'il est complètement domestiqué.
Est-ce qu'il y a des premières fois un peu collectives ? Vous dites qu'il y a eu des réinventions du feu, mais est-ce que c'est un peu aux mêmes périodes ? Ou est-ce qu'il y a des périodes très différentes sur différents coins de la planète ? Des hommes ont réinventé à des périodes différentes ?
Ouais, les décalages sont importants. Hein. On disait 800 000 ans en Israël, peut-être 500 ou 400 000 ans en Europe.
Ouais, c'est énorme, en fait.
Donc, c'est des décalages qui sont très importants. Et faut pas imaginer que le feu ait été apporté dans le bagage technologique depuis le Proche-Orient jusqu'à l'Europe.
Ces
groupes étaient indépendants, c'était pas les mêmes groupes. C'est d'autres espèces humaines, même dans certains cas, dont on parle. Donc plusieurs groupes et espèces humaines ont expérimenté autour du feu, autour de la compréhension du feu, de ce qu'il pouvait apporter, et ensuite de sa réalisation.
On le rappelle, hein, il y avait plusieurs espèces humaines sur Terre. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une, la nôtre.
Hein. Tout à fait.
Nous sommes tous issus d'Afrique. Ça, apparemment, c'est aussi une vérité. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une espèce humaine sur Terre. Alors, on était autour du feu et autour des premiers feux. C'est là aussi qu'il y a dû avoir les premiers échanges, les premiers clans, les premiers échanges. Tiens donc, Nicolas Tessandier.
Les premiers échanges, c'est difficile à mettre en évidence. En tout cas, ce qu'on observe au cours du temps, c'est que des matières premières, des matériaux qui peuvent venir de loin, deviennent de plus en plus courants dans les répertoires archéologiques. C'est-à-dire que plus on va aller vers Homo sapiens, plus Homo sapiens va se caractériser par des acquisitions de matériaux sur de très longues distances qui posent la question... derrière, qui sous-tendent la question de comment sont acquis ces matériaux qui peuvent venir des fois de 300, 400, 500 kilomètres ou plus.
Est-ce qu'ils avaient des liens avec d'autres populations ailleurs ?
Voilà.
On a une idée, on peut répondre ? L'archéologue, le préhistorien que vous êtes peut répondre à
cette question-là ? Certains cas, oui, parce que dans certains cas, ces matériaux viennent de tellement loin et sous des formes très... on va retrouver que quelques objets dans des matériaux très lointains. Sur toute une gamme de matériaux, ça peut être de la pierre pour faire des outils, ça peut être des coquillages pour faire des parures.
Premier bijou, tiens, vous intéressez aussi au premier bijou.
Premier bijou, on en parle dans le livre aussi, oui.
Il date de quand le premier bijou là ? C'est la femme qui vous pose la question.
On est à peu près à les premiers. Ce sont des coquillages perforés aujourd'hui qu'on connaît sur des sites du continent africain, à différents endroits du continent africain. Et les premiers, on est autour de 100 000 ans avant
déjà,
le présent. Hein. Ouais, ces coquillages perforés qui pouvaient être portés en, en collier, en bracelet.
Qui étaient des ornements peut-être de chef, parce que vous avez aussi un chapitre dans Nos premières fois, Nicolas Tessandier, consacré au premier chef ou à la première chef. Hein, vous ne vous prononcez pas.
Voilà, ça sûr, on ne pourra pas le genrer et on n'aura pas d'éléments de réponse. Mais le chef s'était posé la question des inégalités sociales. Y a-t-il des inégalités sociales au paléolithique, donc dans la période qui est traitée dans ce livre?
Et alors la réponse?
La réponse est sans doute oui. Et du coup, ça va un peu à l'encontre de l'équation classique qui était de dire chasseur, cueilleur, collecteur, paléolithique, peuple égalitaire, société égalitaire, un peu âge d'or.
Un paradis perdu.
Voilà. Et par contre, le temps l'arrivée des agriculteurs, des agriculteurs éleveurs, égal stockage des denrées, égal construction villageoise, protection des villages, protection des stocks, richesse. Et donc,
chef et inégalité sociale.
Chef et inégalité sociale. En fait, on s'aperçoit qu'on a des éléments pour discuter de la présence d'inégalités sociales au paléolithique.
Mais alors, c'est quoi ces éléments, justement? C'est des signes distinctifs de chef, au masculin ou au féminin? Mais c'est quoi ces
signes? C'est certains signes distinctifs dans les tombes, avec des tombes notamment richement accompagnées, avec des biens matériels de prestige qui semble montrer que certains individus avaient potentiellement un statut particulier pour qu'on pour qu'ils soient accompagnés d'autant de richesses dans leur dernière demeure. C'est la présence de spécialistes qui se fait sentir dans le travail de la pierre, qui se fait sentir sur les parois des grottes.
Ah oui, spécialistes, c'est vraiment des gens qui sont spécialisés dans...
Oui, on a des développements technologiques un peu de folie, quoi, d'exception, de techniques totalement très difficiles à mettre en œuvre qui font penser...
À des
spécialistes dans la culture de la pierre, dans la fabrication des perles, par exemple, avec des standardisations très fortes qui font penser que seuls quelques individus étaient capables d'eux ou étaient détenteurs du savoir. L'art paléolithique, l'art des cavernes est un élément d'identification de spécialistes. Quand on est face aux fresques de Chauvet, on n'imagine pas que tout le monde dans le groupe était détenteur
et pouvait aller barbouiller
quand on est face à des peintures aussi éblouissantes.
Non, ce sont des maîtres.
Que celles-ci, voilà. Donc ces maîtres-là, quel statut avaient-ils? N'avaient-ils pas plus de pouvoir ou ne jouissaient-ils pas d'un prestige plus grand que d'autres individus dans le groupe? Enfin voilà, autant d'éléments qui permettent en tout cas de poser les questions et de plaider pour ma part plutôt pour des sociétés qui ne sont pas forcément égales. Et d'ailleurs, l'anthropologie sociale et l'ethnologie a montré que certains peuples de chasseurs-cueilleurs, notamment sur la côte du Pacifique, observés à la fin du 19e, au début du 20e siècle, n'étaient pas du tout des sociétés égalitaires. Et...
Bon, pas de paradis perdu à chercher dans nos premières fois.
En tout cas, pas toujours.
Pas toujours, voilà. Parce que précisément, autour de ces inégalités sociales et autour de la question pourquoi et comment remonter, à nos premières fois, se pose la question des premiers meurtres, des premiers conflits, des origines de la violence. Quand il y a hiérarchie, il peut y avoir violence. On continue donc d'interroger toutes nos premières fois, même les plus sombres, avec Franz De Waal, éthologue international reconnu, auteur entre autres de « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?» Écoutez son éclairage sur l'origine de la violence chez les humains.
Il y a toute une discussion sur l'origine de violence de notre espèce. Il y a des anthropologues qui croient qu'on était toujours violent depuis des millions d'années, en fait, et qu'on a avancé notre culture humaine en être violent avec tout le monde. Et il y a d'autres qui disent que ça a commencé avec les révolutions agriculturelles, qui étaient il y a 10 000 ans ou 12 000 ans. Le Néandertal, je ne sais pas. Il y a bien sûr aussi l'histoire que nous, notre espèce, a éliminé le Néandertal. Mais il y a d'autres évidences, et peut-être votre invité va parler de ça, qu'on a fait des bébés avec des Néandertals, que 4% ou 5% de notre ADN vient de Néandertals, et ça veut dire qu'on faisait d'autres choses que faire la guerre avec eux.
Bon, si j'ai bien suivi Franz De Waal, nous avons donc fait l'amour avant de faire la guerre, ou en même temps, Nicolas Tessandier, c'est ça?
Ah oui, en tout cas, entre les sapiens et les Néandertaliens, oui, ils ont sans doute fait l'amour avant la guerre. Du moins, on n'a pas d'évidence de conflits.
Par contre, on a une évidence de mixité, d'hybridation, puisque c'était deux espèces humaines à l'époque différentes. Ça, on a des évidences.
Ça, elles sont claires, oui. La paléogénétique l'a clairement démontré. En revanche, on n'a pas d'évidence du pourquoi de leur extinction. Vraisemblablement une multiplicité de raisons, hein, autant peut-être climatiques qu'environnementales, que liées à la rencontre avec Sapiens.
Peut-être aussi des raisons violentes, aussi peut-être,
voilà,
on n'a aucune trace. Le premier couple, vous êtes aussi intéressé évidemment dans nos premières fois, au premier couple.
Oui, ça semblait aller de soi. Bon, le premier couple, il faudrait définir ce qu'on entend par là, ou si on entend les représentations de la famille telles qu'on les entend nous actuellement. Dans le premier couple, j'insiste surtout sur un élément entre Néandertal et Sapiens, avec des analyses génétiques qui montreraient que les Néandertaliens vivaient plutôt en petits groupes, très rapprochés au niveau familial. C'est-à-dire que quand on a pu faire l'analyse, c'est un site seulement qui l'a permis, où on a une douzaine d'individus représentés. Et en fait, ces 12 individus sont très apparentés familialement les uns avec les autres. Donc un fonctionnement qui semble plutôt assez endogame, en petits groupes assez endogame, alors que quand on a pu le faire sur quelques individus d'un site russe pour Homo sapiens, là, ils n'ont pas de lien de parenté les uns avec les autres, et ça semble montrer qu'à ce moment-là, on est plus sur des règles de parenté plus exogamiques, où on va rechercher partenaires en dehors de son clan. Voilà. Et bien en dehors de son clan, ce qui peut expliquer le succès démographique qu'a connu Sapiens, peut-être par rapport aux Néandertaliens.
Qui restaient, dans leur clan et dans leur famille. Que ce soit chez les Néandertaliens, chez les Homo sapiens ou avant, parmi les premières fois, il y a évidemment le premier enterrement. C'est chez qui et c'est chez quand ? C'est quand, pardon ?
Pour l'instant, c'est chez Sapiens, même si c'est une pratique qui va être partagée par au moins ces deux espèces, que sont Sapiens et Néandertal. Pour l'instant, on est chez Sapiens un peu avant 100 000 ans, sur des sites au Proche-Orient. Et la pratique va être ensuite
pratiquée
par les Néandertaliens, avec des différences dans les types d'inhumations.
Néandertaliens et Sapiens.
Les inhumations néandertaliennes sont toujours des inhumations simples, où il y a un seul corps et qui n'est jamais accompagné de biens funéraires, dont on parlait tout à l'heure pour le premier chef. Les sépultures de Sapiens peuvent être simples comme celles de Néandertal, mais aussi doubles ou triples au Paléolithique. Donc avec deux, ça peut aller jusqu'à 3 individus, un peu plus à la toute fin du Paléolithique. Et là, il y a cette question des biens funéraires qui accompagnent fréquemment les défunts, donc des comportements quand même funéraires qui se différencient.
Et qui commence à être très évolué. Est-ce que ça a un lien avec le premier dieu ? Puisque dans nos premières fois, vous avez aussi recherché le premier dieu.
Oui, j'ai essayé maladroitement, je pense, de poser la question. Elle est tellement difficile.
Bien sûr.
On peut la poser à partir de l'art pariétal, qui est souvent interprété, en tout cas, comme des mythologies, des cosmogonies qui seraient.
Il y a un phénomène sacré, avec un rituel.
Avec des rituels derrière, dans des endroits profonds, comme dans ces grottes profondes. On peut y penser à travers certaines statuettes, notamment les figurines féminines d'une culture du Paléolithique supérieur, le Gravettien, autour de 27-28 000 ans avant le présent.
Vous pouvez voir un culte, à la déesse mère.
Un culte à la déesse mère, avec ce sont des représentations qui arrivent à un moment donné de femmes où les attributs sexuels sont très marqués, très prononcés. Donc voilà, la question peut être évoquée comme ça, même si on ne peut pas...
Finalement, à la place du premier dieu, là, faudrait peut-être dire la première déesse.
Voilà.
Il y a moins de chances de se tromper.
Sans doute.
Autour de la question comment remonter aux toutes premières fois de l'humanité, on continue de s'interroger en votre compagnie, Nicolas Tessandier, à l'écoute de Moussé Hakim sur RFI Néandertal.
J'avais sur mes chemins des milliers de noisettes, personne n'avait planté pour y être privé. Le plat du jour à main et les desserts en tête. On était tous égaux, les animaux, les hommes, à croquer sans un mot, la vie comme les pommes, à fêter le soleil et les lunes étoilées. Néandertal, si tu voyais vieux locataire, dans quel état la planète Terre. Néandertal, cousin lointain, vieux solitaire, l'heure est fatale car tout le monde sont planétaires. Dans ma grotte avec vue sur la mer, lampe à huile et charbon, à faire des traits au mur pour compter les saisons, remercier la nature. On croyait tous pareil au dos du feu des reines, de tes ours et du ciel, des rivières et des chênes. Pas de temple à bâtir, personne à convertir. Néan
Néandertal, si tu voyais vieux locataire, dans quel état la planète Terre? Néandertal, cousin lointain, vieux solitaire, l'heure est fatale car tous nos mots sont planétaires. L'heure est fatale car tous nos mots sont planétaires. L'heure est fatale car tous nos mots sont planétaires. L'heure est fatale car tous nos mots sont planétaires.
Néandertal sur RFI avec l'accent toulousain version Moussé Hakim, ça vous parle Nicolas Tessandier?
Oui, je ne la connaissais pas, c'est très sympa.
Autour de la question comment remonter aux premières fois de l'humanité, dans votre ouvrage Nos premières fois, le préhistorien que vous êtes, Nicolas Tessandier, nous entraîne jusque dans la toute première grotte de l'humanité, qui contrairement à ce qu'on a longtemps cru, a été fréquentée bien plus tôt qu'on ne le pensait, et par les Néandertaliens. C'est la découverte de la grotte de Bruniquel qui a complètement changé la donne. Je vous propose d'écouter l'éclairage de l'archéologue et professeur de préhistoire à l'université de Bordeaux, Jacques Jaubert, qui a daté les structures de stalagmites à lancé par les hommes et les femmes de Néandertal dans la grotte de Bruniquel il y a au moins 176 000 ans. Jacques Jaubert au micro de Charlie Dupuis.
Très honnêtement, c'est une surprise que Néandertal se soit approprié le monde souterrain. Donc forcément, ça nous rend ces hommes-là encore un petit peu plus proches de nous. Les sociétés néandertaliennes sont de mieux en mieux connues. On les sait un petit peu plus complexes et sophistiquées qu'on ne les percevait il y a quelques décennies. On sait qu'ils ont un niveau technique, cognitif, culturel, proche de leurs contemporains d'Afrique, les premiers hommes modernes. Mais on n'avait pas du tout documenté jusqu'à présent une fréquentation du monde souterrain. Ça suppose une capacité à s'éclairer, à maintenir cet éclairage, à l'entretenir, et puis aussi à construire ces fameuses structures qui ont été décrites dans la grotte de Bruniquel. Mais à Bruniquel, on est à 175, 176 000 ans avant le présent. Donc on a une forme extrêmement précoce de cette appropriation du monde souterrain.
À quoi elles ressemblent ces structures?
Il faut rappeler qu'elles sont à 335 mètres de l'entrée actuelle. C'est déjà très remarquable en soi. Elles sont ensuite dans une salle qui est parmi les plus vastes de la cavité. Donc on a une très grande structure annulaire qui couvre à peu près 20 mètres carrés, constituée par des stalagmites qui ont été rangées, qui ont été disposées, agencées, superposées sur 2, 3, voire même 4 rangs, avec même des éléments de calage pour maintenir tout cet édifice. Je voudrais revenir sur un élément. Ces gens-là ont quand même, à un moment donné, déplacé plus de 2 tonnes 100, 2 tonnes 300, d'après nos calculs, de matériaux.
Des stalagmites?
Oui, uniquement des stalagmites ou des éléments de plancher stalagmitique. On est très souvent dans un domaine qui est celui de l'immatériel, du symbolique, d'une appropriation qui est non alimentaire, non fonctionnelle, non technique. On constate de plus en plus que, de manière disjointe et déconnectée, et visiblement sans relation, les Néandertaliens en Europe et les premiers hommes modernes en Afrique ont investi par petites touches, progressivement, mais pas exactement en même temps, ce qu'on appelle des éléments de modernité. Ils ont pratiqué les premiers débitages laminaires, ils ont pour la première fois emmanché des pointes de lance, utilisé des colorants, récupéré des coquillages, pratiqué des sépultures, et donc maintenant, on a aussi l'appropriation du monde souterrain.
Que de première fois pour Néandertal notamment, qu'on a longtemps considéré à tort comme un sauvage. Vous voulez réagir à cet éclairage de Jacques Jaubert, Nicolas Tessandier?
Oui, ça a été une découverte assez exceptionnelle dans cette appropriation effectivement du monde souterrain. Ça vient ajouter un comportement à Néandertal qu'on ne lui connaissait pas. Et comme le disait Jacques Jaubert, on s'aperçoit qu'à ce moment-là où les Néandertaliens sont en Europe et des sapiens sont alors en Afrique, mais sans contact entre eux, et chacun, indépendamment,
évolue et développe
des innovations sans aucun lien les unes avec les autres. On n'imagine pas, à ces périodes-là, il n'y a pas de relation entre les sapiens qui vivent en Afrique, de façon... et les Néandertaliens sont complètement isolés d'eux, et les sapiens n'arriveront que autour de 40-45 000 ans avant le présent en Europe, donc bien après Bruniquel. Donc là aussi, c'est passionnant de voir qu'à différents endroits dans le monde, espèces humaines produisent des innovations.
Produisent des innovations. C'est quand même peut-être ça le propre de ces espèces humaines, et auparavant pré-humaines. Ce serait l'innovation, ce serait aussi le symbolisme, l'imaginaire, enfin d'aller dans les grottes, de peindre, de faire des sculptures de stalagmites ou d'enterrer leurs morts. Enfin là, il y a du symbolique. Et l'innovation, c'est quoi? Ce serait les deux en même temps pour vous?
Oui, il semble qu'à un moment, il est temps de passer au symbolique et à, comme chez Sapiens, il sera temps à un moment de développer des pratiques artistiques sur les parois des grottes ou sur des objets mobiles, et qu'à partir de ce moment-là, il y aura une forme d'irréversibilité. Quand l'art apparaîtra, il ne s'arrêtera plus, et l'art restera comme une composante essentielle de la vie des hommes. Donc c'est comme si à un moment, il est temps d'eux, et les comportements symboliques, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'il se développe, il ne s'arrête plus, mais c'est vrai que c'est dans un certain moment de la préhistoire. Il se passe des millions d'années avant.
Oui, c'est ça. Ça met du temps, et c'est aussi à chaque fois on se rend compte une forme de continuum. Il y a pas, vous cherchez nos premières fois, mais il y a pas une première fois.
Non, c'est
petit à petit. C'est une image, ouais. Bien sûr. Vous consacrez d'ailleurs un chapitre aux premières peintures, à la première sculpture, et aussi, alors là c'est assez drôle, au premier hashtag Néandertal, c'est ça ?
Oui, hashtag Néandertal. S'amuser sur un anachronisme. C'est à partir d'un croisillon gravé qui a été découvert dans une grotte espagnole au niveau du détroit de Gibraltar, la grotte de Gorham, où effectivement les Néandertaliens ont, sur le socle rocheux de la grotte, ont gravé des lignes qui s'entrecroisent et qui font penser au symbole dièse, qui aujourd'hui est notre hashtag pour relier des données, qui nous sert à relier des données, à relier des contenus à travers le monde entier. Donc voilà, je trouvais que c'était amusant.
Hashtag Néandertal, ou hashtag inventé par Néandertal. Et puis vous le dites aussi, on s'en rend compte, hein, Nicolas Tessandier, on ne cesse pas de remonter le temps. Chaque découverte, il y en a eu énormément ces dernières années, nous dit que finalement les premières fois ont été plus anciennes qu'on ne le croyait. On a l'impression qu'on remonte le temps, qu'on a évolué, mais qu'on était déjà très évolué il y a très longtemps.
On remonte toujours le temps, mais là c'est aussi nos progrès technologiques qui nous font remonter le temps. Je pense que il y a 50 ans ou 60 ans, ne serait-ce que dater en préhistoire était quelque chose. Il y a eu l'invention du carbone 14, du radiocarbone dans les années 50. Avant les années 50, il n'y avait pas de date au sens absolu du terme. Et depuis, on a cessé de progresser, de mieux décontaminer les échantillons, de mieux les traiter. Et on s'aperçoit que plus les méthodes de datation évoluent, plus un même objet qui est redaté est mieux décontaminé, plus cet objet vieillit. Et puis, il y a des méthodes qui maintenant permettent de dater des choses beaucoup plus anciennes, comme à Bruniquel, par exemple, à 175 000 ans.
On n'imaginait pas que ce soit aussi ancien que ça.
Voilà. Et on n'aurait pas pu, il y a des décennies, on n'aurait pas pu sortir ces dates parce qu'on n'en avait pas les moyens technologiques, les méthodes n'existaient pas. Donc là, c'est vrai qu'on bénéficie aujourd'hui en préhistoire d'un tas d'avancées en physique, en chimie, en biologie, en génétique, qui sont des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer.
Alors, qui permettent de dater les objets, qui permettent aussi de nous montrer que certains objets n'ont pas beaucoup évolué. Moi, j'adore votre chapitre sur la première aiguille à chat, enfin la première aiguille pour coudre.
Ouais.
Elle n'a pas tellement évolué.
Elle n'a pas du tout évolué.
C'est l'invention
géniale. Là, c'est pour le coup, c'est l'invention géniale qui, je trouve, est un super exemple pour montrer au public aussi que ces gens-là font partie pleinement de notre histoire, dans le sens où certains de leurs objets sont encore aujourd'hui des composantes de nos trousses à outils. Et si on sort notre aiguille à chat actuelle, hormis le fait que la matière a changé, le métal s'est substitué à l'os.
C'était quoi d'ailleurs ? C'était de l'os, les premières aiguilles.
Mais sinon, la forme, la fonction, la forme du chat, la forme globale de l'objet et sa fonction, son fonctionnement, sont exactement le même. Donc là, c'est vraiment la preuve que ces gens-là sont bien aussi partie de notre histoire.
C'est génial cette aiguille, c'est tout simple,
mais c'est
extraordinaire.
Redoutablement efficace.
Ouais. Les objets, on dit d'ailleurs très long sur notre humanité. Comment est-ce qu'on sait, une aiguille à chat, on sait bien que c'était pour coudre, mais comment est-ce qu'on sait quand on est archéologue, préhistorien, quel était l'usage de l'objet que l'on découvre entre un couteau pour aller à la chasse, découper sa viande et puis tuer son voisin, par exemple? C'est le même couteau ?
C'est difficile, mais on a aujourd'hui des méthodes, notamment une méthode par exemple pour les objets en pierre ou les objets en os qui s'appelle la tracéologie et qui consiste en l'étude microscopique des traces qui vont être laissées sur les tranchants par exemple des outils et qui permet de discriminer à la fois les matières d'œuvre et les gestes. Donc on peut discriminer si tel outil a servi sur du bois, sur des matériaux souples, des matériaux tendres, de la peau fraîche, de la peau sèche, etc. Et les types d'actions. Ça va laisser des traces différentes. Et ensuite, on va faire des répliques actuelles qu'on va observer nos répliques actuelles et les faire fonctionner en expérimentation. Et ensuite, on va comparer les traces sur les objets actuels fait par des préhistoriens au cours d'expérimentation et les traces qu'on observe sur les matériaux passés.
On a fait une émission là-dessus avec Charlie Dupuis, c'était passionnant, comme quoi vous refaites finalement les mêmes gestes, ouais, avec les mêmes matériaux pour comprendre comment travaillaient, fonctionnaient, comprenaient nos ancêtres.
Oui, la pratique expérimentale est vraiment une partie du travail de beaucoup de mes
collègues.
Vous-même,
puisque vous
un
êtes...
Un petit peu, mais...
Vous quoi, un peu tailler les pierres
ou... Tailler les pierres, oui, jeune étudiant, il fallait s'y mettre. Il y avait, mon professeur à l'époque était un grand tailleur de silex, donc on apprenait
vous
à tous
pas
un
le
peu
choix.
À... Oui, oui, et puis c'est vrai que c'est une appréhension même sensible, quelque part. Enfin, tant qu'on s'y est pas un peu frotté, on a du mal à penser qu'il faut avoir réfléchi 10 ou 15 coups à l'avance pour sortir une belle lame d'un bloc de silex. Quoi.
Et du coup, ça change aussi le regard qu'on porte sur ces hommes, capables de tout ça, d'imaginer ça, de concevoir tout ça et de le transmettre.
On redevient modeste.
C'est ça, face au savoir de nos ancêtres, qui ont très tôt su faire des choses très bien et puis d'autres choses un peu moins bien. Je vous propose d'écouter la préhistorienne Anne Loerf, qui s'est interrogée, elle, sur la première arme conçue pour la guerre. On l'écoute et vous réagirez ensuite.
Je travaille sur la métallurgie et plus particulièrement sur les alliages cuivreux. Et étude après étude, durant des années, après avoir regardé et étudié dans le microscope un certain nombre d'objets, il a bien fallu que je me rende compte que certains de ces objets disaient des choses particulières, d'une certaine manière incarnaient des réalités spécifiques et en particulier un objet, l'épée. J'ai décidé du coup de m'arrêter sur cet objet.
Sur l'épée et sur, vous citez dans cet ouvrage, une date clé, c'est celle de la naissance de l'épée. On est dans l'âge du bronze, entre 1700 et 1600.
C'est ça, on est. Alors, c'est pas le tout début de l'âge du bronze, puisque en Europe. Voilà, avant notre ère. Le début de l'âge du bronze en Eurasie commence à l'extrême fin du 3e millénaire avant notre ère. Donc, on est dans une phase initiale de l'âge du bronze, mais pas au tout début. Et on voit effectivement cet objet apparaître grâce en fait à la naissance des alliages cuivreux, du bronze en l'occurrence. Et donc l'épée naît parce qu'il y a cette forme de révolution technique qui apparaît à ce moment-là et qui correspond également à des besoins particuliers qui font naître cet objet qui est sans ambiguïté. Une épée ne sert qu'à attaquer autrui, soit pour le blesser, soit pour le tuer.
Voilà comment la première épée est apparue dans notre histoire, l'histoire de l'humanité. Alors, avec les innovations, comment dire, notre humanité, elle avance et elle recule. Je ne sais pas si c'est un grand bond en avant que d'inventer l'épée. Qu'en pensez-vous ? C'est pas à nous de juger, Nicolas Tessandier.
Non, mais c'est... Disons qu'il faut replacer l'objet dans son contexte social et économique. Alors, je connais moins l'âge du bronze.
Oui, c'est beaucoup trop récent pour
collègue.
Vous.
C'est un peu récent. Mais effectivement, on sait qu'à partir du moment, à partir de l'apparition des sociétés d'agriculteurs et d'éleveurs, on va observer de plus en plus des traces de violence interindividuelle entre les... qui vont culminer effectivement à ce moment de l'âge du bronze. Mais déjà avant, à la fin du paléolithique, on a les premiers témoignages de violence collective.
Alors, ils sont rares. Donc le premier meurtre qui est lié tout de suite à des meurtres collectifs, en fait, c'est ça?
Oui, disons qu'on a la première trace de violence qui ne soit pas juste un coup donné à un autre individu. Ça, c'est connu, ça a été documenté sur des individus, même précédant les Néandertaliens en Europe, où un individu à 400 000 ans porte deux traces de coups violents au-dessus de l'œil. Mais bon, ça peut être juste une bagarre, enfin, quelque chose qui existe chez les primates.
Voilà.
Bon, bref, c'est pas rien d'exceptionnel sur le contexte social. Par contre,
ça ne veut pas dire la guerre et la vraie violence instituée.
Tout à fait. Par contre, on a un site daté autour de 12 000 ans au Soudan, où là, il y a une cinquantaine d'individus qui ont été inhumés. Et sur les 50, il y en a 25 ou 26 qui portent encore dans leur squelette des traces de pointes de flèche, enfin des pointes de flèche qui sont insérées dans leur corps vertébraux, à des endroits qui sont létales pour.
Oui, là, il n'y a pas de doute, c'était
où il n'y a pas
des
de doute
qu'ils
ont été
tuer.
Attaqués. Quoi.
Et donc, c'est il y a très longtemps une violence collective ou une sorte de guerre tribale, on ne sait pas. Mais
ces premiers témoignages sont juste avant les sociétés néolithiques. Quoi. On est vraiment à la toute fin du paléolithique, 12 000 ans avant le présent. Il y a un cas au Soudan qui est connu, un cas au Kenya. Donc c'est encore, on en a pas beaucoup, mais ils montrent en tout cas qu'il n'y a pas adéquation claire. Entre violence et nécessairement peuple d'agro-pasteurs, et que les chasseurs-cueilleurs, comme ils pouvaient avoir des inégalités sociales, ils pouvaient avoir des comportements violents, collectifs, et que c'était pas juste des sociétés de, comme on a voulu les voir, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, âge d'or, âge d'abondance.
Voilà, c'est ni paradis perdu, ni non plus, on a extraordinairement évolué. Ces hommes, ils étaient déjà évolués, ils avaient conscience d'eux-mêmes, ils avaient des capacités incroyables. Donc, c'est ni l'un ni l'autre, finalement, on est dans autre chose. Vous qui avez justement étudié toutes ces premières fois, notre rapport à ses ancêtres, à notre passé, il est ni c'était des sauvages et nous, on est merveilleux, ni non plus, c'était, ils étaient au paradis et nous, on n'a fait que détériorer notre humanité. C'est ni l'un ni l'autre.
Oui, oui, oui. Oui, je pense qu'on a, on a souvent cette vision caricaturale, effectivement, de, surtout aujourd'hui où on est dans un moment un peu de crise.
Bien sûr.
De crise écologique. Donc, il y a eu tous les mouvements un peu de retour vers le paléo, le paléo-régime. Pour,
c'est ça.
Retour aux
sources. Vous ne suivez pas, vous, le paléo-régime.
Disons que si on prend le régime néandertalien ou même des temps glaciaires, ça va être un peu trop riche en gras par rapport à nos activités quotidiennes et nos modes de vie, je pense. Ouais. Donc, non, il y a beaucoup
De fantasmes, finalement, là-dessus. Alors, par contre, vous vous intéressez tout de même au premier ver de lait. Ça me fait penser à Jacques Vigne, un chercheur qui a beaucoup travaillé sur les premiers chiens, les premiers chats. Pourquoi on a bu le lait de nos vaches, finalement, c'est ça qui vous intéresse.
Ouais, bah je finis avec deux, trois premières fois qui passent un peu dans le monde des agriculteurs éleveurs, du coup. Premier ver de lait, ça m'a amusé. Ouais. Effectivement, le premier ver de lait, c'est... On le détermine par deux façons. C'est qu'il commence à y avoir des récipients en céramique et on peut faire des analyses chimiques sur les résidus à l'intérieur des contenants en céramique et déterminer qu'ils ont contenu du lait. Et on est vers 9000 ans avant le présent, en Anatolie, où les cortèges de faune connus sur les sites, d'animaux connus sur les sites, sont dominés par des bovins. Donc le premier ver de lait semble être plutôt du lait de vache,
hein, c'est ça. Hein. En même temps, tous ces comportements, effectivement, ils nous en disent très long sur les hommes du passé, mais c'est aussi une manière de regarder comment on fonctionne aujourd'hui. C'est une manière d'éclairer notre présent aussi, Nicolas Tessandier.
Oui, mais je pense que c'est très important d'aller chercher des situations passées aujourd'hui et pour essayer de comprendre que... C'est, je pense aux gens qui bossent, qui travaillent beaucoup sur le collapse, par exemple, ou les collapsologues qui vont aller, s'interrogent aujourd'hui sur l'effondrement probable de notre civilisation, et qui vont chercher des exemples, d'aller chercher des situations passées pour voir un peu comment les choses se sont passées, pourquoi les statues de l'île de Pâques, la civilisation des statues de l'île de Pâques s'est arrêtée, pourquoi les Aztèques et les Mayas ont culminé puis ont décliné.
Ça renseigne et ça peut même rendre philosophe que d'être préhistorien et de travailler sur les premières fois. Ça renseigne sur nous-mêmes. Ça vous a appris quoi, cet énorme travail? On se demande même si vous n'allez pas continuer à nous trouver d'autres premières fois.
Ah bah ça, la liste.
La liste est longue.
La liste est longue, infinie, je pense.
Vous avez retiré quoi vous-même?
Vu que les thématiques étaient très larges dans le livre, ça m'a fait prendre du recul aussi par rapport au travail de recherche où on est souvent focalisé quand même. Hein. En travail de recherche. Là, je parle de thématiques dont sur lesquelles je ne fais pas de recherche à proprement parler.
Mais qui sont très bien documentées.
Voilà, j'utilise les articles scientifiques de mes collègues et où je rassemble de la documentation que je ne pourrais pas produire parce que un préhistorien n'a pas le savoir suffisant pour produire toutes ces données qu'on a à notre disposition aujourd'hui.
Bah merci en tout cas de nous avoir fait partager. Merci d'être venu en direct. Partagez donc toutes nos premières fois. C'est le titre de votre essai passionnant qui éclaire aussi notre présent à la lumière du passé et qui est paru aux éditions La Ville Brûle. Donc vous revenez quand vous voulez, Nicolas Tessandier, pour d'autres premières fois.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio et sur Spotify. Avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, nous vous donnons rendez-vous demain pour nous abriter sous le théorème du parapluie ou comment en maths comme en sciences, il suffit parfois d'un simple pas de côté, d'un changement de regard pour avancer. Décalage et jeux mathématiques en perspective. Merci de votre curiosité sans cesse renouvelée. Chers amis auditeurs, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est presque l'heure des informations.
Émission spéciale.